Bonjour mes amis, vous allez bien j'espère. Je suis toujours confiné à la maison et nous ne pouvons nous réunir comme nous aimerions le faire. Mais malgré cela, la parole de Dieu n'est pas liée. Et je vous remercie de ce que vous gardez le contact par les différentes technologies à notre disposition. Que le Seigneur fortifie notre foi en sa bienveillance et accorde à chacun et à chacune, parents et enfants, un excellent dimanche. Comme vous le savez, je fais une série de messages sur Moïse. Dans les précédentes prédications, nous avons vu Moïse l'enfant, puis Moïse le frère. Dieu a protégé l'enfant Moïse à l'âge où il était complètement dépendant et sans défense, comme tous les bébés. Et il a préparé pour l'œuvre qu'il devait accomplir par la suite. Puis nous avons remarqué Moïse choisir de s'identifier avec ses frères juifs afin de les libérer de leur esclavage cruel et les conduire vers le pays que Dieu avait promis de donner à leur père. Il avait alors 40 ans et pensait savoir clairement la volonté de Dieu pour lui. En tuant l'Égyptien, il a montré un sentiment de compassion pour son peuple et un esprit de droiture pour régler les injustices qu'il voyait subir ses frères. Nous voyons donc déjà germer en lui le grand libérateur et législateur qu'il allait devenir plus tard. Moïse semblait donc être fin prêt pour accomplir sa mission, mais le peuple ne l'était pas, au moins certains d'entre eux. « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» demandait l'un d'eux. Ce n'était manifestement pas le bon moment dans le plan de Dieu non plus, car nous avons l'impression que Dieu y a mis un gros coup de frein. La nouvelle du meurtre que Moïse avait commis est arrivée aux oreilles du Pharaon. Il a compris que Moïse avait choisi de s'identifier avec le peuple juif, non pas avec les Égyptiens. Moïse n'avait pas seulement levé la main contre l'Égyptien, mais contre le Pharaon lui-même, qui ne pouvait accepter cette trahison et cette rébellion. Moïse a dû fuir dans la précipitation. Et voilà que Dieu semble appuyer sur le bouton « marche arrière » de la vie de Moïse, puis recommencer l'enregistrement. Moïse avait commencé sa vie comme un juif qui devait mourir. Et maintenant, pour la deuxième fois dans sa vie, sa tête était mise à prix. Placé dans un panier dans le Nil, il n'avait plus que Dieu pour veiller sur lui. Et c'était de nouveau le cas. En tant que bébé, toute sa vie était devant lui comme une page blanche. Et fuyant en Égypte, il ignorait tout ce que l'avenir lui réservait. En tant qu'enfant, il devait tout apprendre de l'Égypte. Maintenant, à 40 ans, il devait tout apprendre du désert et de la conduite d'un troupeau de moutons. Moïse allait devoir patienter encore 40 ans avant de commencer sa mission de libérateur. Beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi Dieu n'a-t-il pas libéré son peuple tout de suite? Après tout, la condition de vie brutale et injuste des Israélites semblait exiger une réponse rapide, n'est-ce pas? Dieu n'est-il pas amour? Pourquoi donc faire souffrir toute une génération supplémentaire dans ce pays que la Bible qualifie elle-même de fournaise? Certains lecteurs supposent que la réaction du Juif, celui que Moïse avait repris, montre que le peuple d'Israël n'était pas prêt à le suivre, ce dont Moïse allait se souvenir encore 40 ans plus tard. D'autres pensent que Moïse lui-même n'était pas tout à fait prêt. Il avait certes de bonnes intentions, mais semblait être trop impulsif, n'attendant pas Dieu et pensant pouvoir accomplir tout seul cette délivrance. La réalité est que la Bible ne dit presque rien sur les raisons de cet interlude. Pratiquement toute la période entre la fuite de Moïse et son retour en Égypte est passé sous silence. Et ce long silence dans l'histoire m'amène à vous donner un petit conseil, si je peux, avant de commenter cette nouvelle période dans la vie de Moïse. Voilà le conseil. N'essaie pas de remplir les vides dans la Bible par vos propres hypothèses. Nous sommes tous curieux et nous aimons avoir les réponses à toutes nos questions, n'est-ce pas? Mais la Bible n'a pas été écrite pour répondre à nos questions, seulement à notre besoin, surtout celui du salut. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons chercher à comprendre ce qu'elle dit, non pas ce qu'elle ne dit pas. Sinon, nous courons, me semble-t-il, deux dangers. Le premier est que nos hypothèses peuvent nous mener à des hérésies, car dans l'absence d'une parole claire, il n'y a aucun contrôle de nos idées. Dites-moi, pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan de tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Ou encore, à quelle date Jésus revient-il? Chacun va avec son « je pense ceci » ou « je pense cela » sans qu'il soit possible de vérifier qui a raison et qui a tort. Puis, comme nous sommes tous convaincus de nos opinions de toute façon, nous les défendons bec et ongles, ce qui crée des tensions dans les relations et quelquefois même des ruptures. La Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres, mes amis, et même abonder en amour. Nous ne courons donc pas le risque de créer inutilement des conflits par nos hypothèses qui peuvent s'avérer erronées. Le deuxième danger est qu'en essayant de sonder ce que la Bible ne dit pas, nous passons à côté de ce qu'elle dit. Je ne sais pas quand Jésus va revenir. Mais la Bible dit qu'il peut revenir à tout moment. Oui, ça, elle le dit. Elle dit aussi que je dois me tenir prêt. Dieu nous parle dans sa parole, et la meilleure façon de l'entendre est d'écouter ce qu'il dit et de le mettre en pratique, non pas de chercher ce qu'il ne dit pas. Pour revenir à l'histoire de l'Exode, dans Genèse chapitre 15, verset 16, Dieu avait prophétisé à Abraham que les Israélites n'allaient pas entrer dans la terre promise avant la quatrième génération, quand l'iniquité des Amoriens serait à son comble. Cette période a dû sembler longue à Moïse, mais au moins cette fois-ci, il attend le feu vert de Dieu. La seule chose que Dieu nous révèle par rapport à son serviteur dans cette période est que Moïse s'est installé en Madian, où il s'est marié et a fondé une famille, travaillant pour son beau-père. Regardons cela dans Exode, chapitre 2, versets 16 à 22, et demandons à Dieu de nous enseigner par ces quelques détails de la vie de Moïse, le réfugié. Je lis maintenant Exode 2, à partir de verset 16 et jusqu'au verset 22. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a prisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Alors Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Une fuite et une nouvelle famille. Voilà ce que la Bible nous dit au sujet de Moïse, le réfugié. D'abord, pensons à sa fuite. Moïse, dans sa fuite devant Pharaon, est arrivé au pays de Madian. Les Madianites étaient un peuple semi-nomade, et le déplacement les amenait dans la région qui s'étendait de l'extrême sud-est de la péninsule du Sinaï jusqu'à l'autre côté de la branche orientale de la mer Rouge, en ce que nous appelons aujourd'hui l'Arabie Saoudite. Moïse a donc fait un voyage d'environ 300 kilomètres. Pour se rendre à Madian, il a fallu qu'il traverse tout le désert du Sinaï, qui était alors une région non pas seulement inhospitalière, mais contrôlée, comme il est encore aujourd'hui, par l'Égypte. Il a dû éviter, bien évidemment, les routes principales, les garnisons et patrouilles militaires, et des mines exploitées par les Égyptiens dans cette région. Qu'il soit arrivé à le faire, sans se faire prendre, est un véritable exploit. Mais pourquoi Moïse est-il allé jusqu'à Madian? Après tout, il aurait pu passer, essayer d'entrer directement en Canaan ou en Édom, deux pays beaucoup plus près. Nous ne connaissons pas les motivations, les craintes et les réflexions de Moïse, mais selon Genèse 25, verset 2, que Moïse a écrit plus tard, Madian était un des fils qu'Abraham avait eu avec sa deuxième femme, Keturah. Si Moïse était au courant de cette parenté quand il a fui d'Égypte, il est possible qu'il ait espéré trouver chez les Madianites un accueil favorable. Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Et dans Proverbe 16, verset 9, nous lisons que « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Je conclus donc que, quelles que soient les pensées et les intentions de Moïse, c'est l'Éternel qui l'a conduit jusqu'à Madian. N'avons-nous pas déjà remarqué comment la main de Dieu avait été sur lui quand il était un enfant? Dans les deux périodes, celle de son enfance et maintenant celle de son exil, Moïse était dans un état de faiblesse. Et vous savez, c'est alors que Dieu se plaît à montrer sa puissance. Dieu n'a pas changé, mes amis. Il sait nous garder et conduire quand nous sommes faibles. Et quand je dis cela, vous pensez sans doute au témoignage de l'apôtre Paul, quand il avait son écharpe dans la chair. Il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9, « Et il, Dieu, m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Moïse allait voir que l'Exode s'accomplirait par le bras étendu de Dieu, non pas du sien. Et c'est ainsi que, 80 ans plus tard, quand Israël est enfin entré dans la terre promise, Rahab a dit aux deux espions qu'elle savait que l'exode de l'Égypte avait été l'œuvre de l'Éternel, Josué 2, 10. Puis elle a témoigné, nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Voyez-vous, l'Éternel a conduit Moïse de telle sorte que tous reconnaissent que la rédemption d'Israël dans l'Égypte était une œuvre de Dieu, non pas celle de Moïse. Et c'est ainsi que Dieu veut nous conduire aussi, mes amis. La fuite de Moïse a permis que la grandeur de Dieu, sa grâce et sa gloire soient magnifiées dans le monde. Maintenant, réfléchissons sur la nouvelle famille que Dieu a donnée à Moïse. Il y a des commentateurs qui considèrent que Moïse ait été surpris, et peut-être déçu même, par la manière dont sa mission avait commencé. Il avait pensé, dit le Nouveau Testament, que ses frères comprendraient son geste, mais ce n'était pas du tout le cas. Imaginez un instant, le jour où il a commencé sa mission, il était personnellement rejeté et devait fuir pour sa vie. Il avait sans doute eu des visions d'un grand nombre de personnes sauvées par son action, mais avant qu'il n'en sauve le premier, il doit partir, rejeté par les Juifs et les Égyptiens. Mes amis, la France et le monde entier ont besoin de serviteurs de Dieu. Je voudrais vous encourager à vous offrir à Dieu, mais sachez que le ministère spirituel n'est pas toujours facile. Lorsque vous vous offrez à Dieu, cela doit être comme un sacrifice saint et vivant. Oui, il faut mourir à soi. Personnellement, je ne peux pas critiquer Moïse, car lorsque je suis arrivé en France, c'était en partie avec la pensée que j'allais montrer ce de quoi j'étais capable. Quelle prétention! Dieu, dans sa grâce, a malgré tout accompli son œuvre, dont lui seul mérite la gloire. Mais il m'a fait passer aussi par pas mal d'épreuves. Épreuves de ma foi, épreuves de ma fierté. Parfois, je me demande pourquoi Dieu m'a choisi moi. Mais j'ai appris que Dieu ne peut que choisir des hommes et des femmes imparfaits, car les parfaits n'existent pas. En fait, nous devons tous nous présenter à Dieu comme un sacrifice saint et vivant, puis laisser Dieu nous former, nous purifier et nous conduire selon son plan et en son temps. Moïse n'était pas un homme parfait, mais Dieu ne l'a pas abandonné pour autant. Il a conduit vers une nouvelle famille. Puisque Moïse avait un sens aigu de justice, Dieu a organisé la rencontre avec sa future belle-famille de façon à lui garantir son accueil. Comme les Israélites en Égypte, les sept filles de Réuel étaient depuis longtemps maltraitées par des bergers méchants, plus forts qu'elles. Moïse a volé à leur secours, et non seulement les a-t-il défendues, il a aussi puisé de l'eau pour abreuver leur troupeau. Il s'est montré ainsi, sans avoir eu le temps de réfléchir à lui-même sans doute, courageux, galant, généreux. Cela ne pouvait qu'impressionner les jeunes femmes et leur père. La suite était quasiment écrite d'avance. Moïse s'est marié avec Séphora, a eu par elle un fils et a trouvé un emploi dans sa famille. Non, la Bible ne dit pas pourquoi Dieu a fait attendre son serviteur encore 40 ans avant de reprendre sa mission, mais je remarque que cette période a été bénéfique pour Moïse. Il avait été repoussé par ses frères parce que eux, ils avaient l'impression que Moïse agissait comme un juge et un prince. Il est vrai que sa position à ce moment-là lui donnait beaucoup d'avantages pour aller à leur secours, mais combien mieux ne pouvait-il s'identifier avec eux en connaissant personnellement leur crainte et leur métier de berger. Avant sa fuite, il sentait le bon parfum d'un palais. À son retour, il sentait les champs et les bêtes. Il n'était plus le grand prince d'Égypte, mais le berger méprisé, comme eux. Puis, comment pouvait-il conduire son peuple pendant 40 ans dans le désert de Sinaï? Les emmener à Memphis, peut-être, ou à Thèbes? Il ferait son affaire, mais le désert du Sinaï. Mais voilà que, pendant des années, Dieu l'a obligé à paître des moutons dans ce pays où il allait passer, avec ses frères, beaucoup d'années. À l'époque où Moïse faisait sa première tentative de libérer son peuple, il ne savait pas que l'incrédulité de ses frères l'obligerait à passer ce temps formatif de berger dans cette région. Mais Dieu connaît son affaire mieux que nous, mes amis. Et Dieu a montré son amour à Moïse, alors même qu'il était mal reçu par ses compatriotes et traqué par le pharaon. Pensez-y, il l'a aidé à faire face tout seul aux bergers qui maltraitaient les filles de Réuel. Il a fait trouver grâce aux yeux de ce prêtre de Madian. Il a reçu en mariage une femme, car Dieu sait qu'il n'est pas bon à un homme d'être seul. Il a eu par elle deux fils, dont les prénoms étaient significatifs. Nous avons déjà remarqué qu'il a appelé l'aîné Gershom, disant « J'habite un pays étranger ». Et selon Exode 18, versets 3 et 4, il a donné au cadet le nom d'Éliézer, car il a dit « Le Dieu de mon père m'a secouru ». Et il m'a délivré de l'épée du pharaon. Je ne sais pas si Moïse a toujours compris et apprécié tout l'amour dont il bénéficiait. Peut-être que nous non plus, car parfois, c'est vrai, les coups durs de la vie peuvent nous faire nous en douter. Mais quelqu'un a donné ce sage conseil. Ne mettez pas en doute dans les ténèbres ce qu'il est évident en plein jour. Quand tout va bien, nous reconnaissons bien volontiers la grâce de Dieu. Alors, n'en doutons pas quand notre chemin passe par des tunnels. Voyez-vous, Dieu n'avait pas abandonné son serviteur. Moïse a appris que Dieu était fidèle en le conduisant dans toutes les circonstances de la vie, les bonnes et les mauvaises. Et il allait voir que même les épreuves étaient coordonnées par Dieu pour le préparer pour l'œuvre à laquelle l'Éternel le destinait. Mes amis, ce n'est pas difficile de suivre un Dieu comme cela, et même de persévérer. Quand bien même nous pouvons parfois avoir le sentiment d'avoir raté notre mission. Mais laissez-le agir. Ne soyez pas trop dur, ni avec lui, ni avec vous-même, chers amis. Confessez ce qui doit être confessé, bien sûr. Puis relevez-vous et poursuivez son chemin. Un jour, vous verrez que toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. La prochaine fois, nous verrons l'histoire surprenante de Moïse, l'homme appelé selon le dessein de Dieu.